Bonjour et bienvenue, 10h TU, 11h ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, une initiative du gouvernement britannique dans le conflit ukrainien. Il organise à Londres un sommet virtuel en présence d'une vingtaine de dirigeants et d'organisations prêts à aider au maintien de la paix en cas de cessez-le-feu. On vient dans le même temps d'assister à une nouvelle attaque massive de drones la nuit dernière contre la Russie. Les États-Unis déclarent l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Washington persona non grata. Il l'accuse de haïr l'Amérique de Donald Trump, à suivre dès le début du journal. Après des mois de manifestations pacifiques, la Serbie se prépare à un grand rassemblement contre les autorités. Des dizaines de milliers de manifestants sont attendus ce samedi à Belgrade. La France, pourtant très endettée, échappe à une dégradation de sa note par Fitch. L'agence américaine de notation maintient sa note souveraine à AA-. L'ambassadeur sud-africain à Washington, donc jugé indésirable aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, veut son éviction. Il reproche à Ibrahim Rasoul de haïr les États-Unis et son président Donald Trump. Correspondance de Loubna Anaki.
Comme désormais une grande partie de l'administration Trump, c'est sur le réseau social X que Marco Rubio a annoncé la nouvelle. L'ambassadeur d'Afrique du Sud n'est plus le bienvenu dans notre grand pays, a écrit le secrétaire d'État. Il accuse Ibrahim Rasoul d'être, je cite, un politicien qui nourrit les tensions raciales, qui est les États-Unis et qui est le président. Des déclarations qui font suite à un discours donné par le diplomate sud-africain lors d'une conférence organisée par un institut basé à Johannesburg. Discours dans lequel Ibrahim Rasoul expliquait que Donald Trump menait, je cite, une politique de suprématie blanche. Déclaré l'ambassadeur persona non grata n'est que la dernière illustration des tensions entre Washington et l'Afrique du Sud. Peu de temps après son retour à la Maison Blanche, Donald Trump avait accusé Pretoria de traiter les descendants de colons européens de façon injuste. Il avait même créé une procédure d'asile pour accueillir ceux qui fuiraient, selon lui, la discrimination raciale du gouvernement sud-africain. Des critiques répétées également par l'allié de Donald Trump, Elon Musk, lui-même sud-africain. Il a à plusieurs reprises accusé le gouvernement de son pays natal de discrimination envers les populations blanches. Le mois dernier, le président Ramaphosa avait lui dit vouloir se rendre aux États-Unis pour tenter de désamorcer la situation entre les deux pays. Loubna Anaki, New York, RFI.
En Serbie, la mobilisation contre le pouvoir du président Vučić ne faiblit pas. Plus de 4 mois après un accident mortel dans une gare à Belgrade, la colère a gagné tout le pays. Les étudiants organisent ce samedi une nouvelle manifestation monstre dans la capitale serbe. Hier soir, des centaines d'étudiants venus de nombreuses villes sont arrivés à pied ou à vélo, accueillis dans la liesse par les Belgradois. Le futur chancelier allemand Friedrich Merz peut souffler. Son vaste plan d'investissement de 500 milliards d'euros est bien parti pour être approuvé au Parlement. Il fait l'objet maintenant d'un accord politique conclu par son parti, la CDU, les sociaux-démocrates du SPD et les Verts. Très attendu en Europe, ce plan est destiné à réarmer et moderniser l'Allemagne. Il s'ajoute aux 800 milliards débloqués par l'Union européenne. Altin Lazaj a recueilli l'éclairage de Sylvie Matteli, directrice de l'Institut Jacques Delors est spécialiste en questions de défense. Elle pointe la difficulté à faire travailler ensemble une industrie européenne de la défense très morcelée.
Ce qui s'est passé au niveau européen depuis plusieurs années, c'est que chaque pays européen a pensé ses capacités militaires et ses capacités de production d'armement de manière nationale. Les projets en coopération ont été peu nombreux, ils ont souvent mal fonctionné. La conséquence immédiate, et pour illustrer un petit peu tout ça, c'est le nombre de chars de combat, d'avions de combat que nous sommes capables de produire, qui sont beaucoup plus nombreux et beaucoup plus importants qu'aux États-Unis. Donc ça, c'est du gaspillage. Mais si on a des équipements qui ont été produits par des producteurs qui se sont coordonnés, des sous-traitants qui ont été renforcés par des commandes communes, eh bien on réduit cette fragmentation, donc on réduit les gaspillages et on renforce les capacités produites pour l'argent dépensé. Pour 100 euros aujourd'hui, on produit bien moins de capacités qu'on ne pourrait, et d'armement qu'on ne pourrait en produire si on travaillait tous ensemble.
Nouvelle attaque massive de drones la nuit dernière contre la Russie. Les Russes affirment avoir abattu 126 drones ukrainiens ukrainiens, principalement dans la région de Volgograd et de Voronej, dans le sud, le reste des drones ciblant des zones frontalières. Sur le plan diplomatique, je le disais en titre, une initiative actuellement du Premier ministre britannique Keir Starmer. Il organise à Londres un sommet virtuel en présence de quelques 25 dirigeants et organisations prêts à aider au maintien de la paix en cas de cessez-le-feu, était annoncé ce matin à Londres, outre l'Ukraine. L'OTAN, la Commission européenne, le Canada ou bien encore l'Australie, tous réunis pour préciser les contours d'une coalition de pays volontaires. Transféré cette semaine depuis Manille aux Pays-Bas, l'ancien président philippin Rodrigo Duterte a pour la première fois comparu hier devant la Cour pénale internationale. Il est poursuivi devant la CPI pour crimes contre l'humanité présumés. Selon les ONG, sa campagne sanglante contre le narcotrafic a fait des dizaines de milliers de morts. À Manille et ailleurs aux Philippines, cette première audience a été suivie de près par les familles des victimes. Reportage de notre correspondante Nemo Lecoq-James.
Sur les genoux des 8 femmes assises devant le grand écran, il y a des photos de leurs proches assassinés sous les ordres de Duterte.
C'est mon mari, il était âgé de 34 ans quand il est mort.
Ici, le petit public est très silencieux pendant l'audience, le moment est solennel. Duterte a comparu par liaison vidéo pour cause de fatigue et de maladie. Pour les femmes présentes dans la salle, c'est une stratégie de victimisation. Jane Lee a perdu son mari qui a été tué il y a 8 ans. Aujourd'hui, ses émotions sont partagées.
Je ne peux pas croire qu'il soit affaibli. Il n'est même pas physiquement venu à l'audience. Mais avec les autres familles, nous sommes quand même très heureuses. Car au moins, il a été arrêté et il est maintenant là-bas, à la Cour pénale internationale.
L'audience était rapide, elle n'a duré qu'une vingtaine de minutes et l'ancien président a seulement dû confirmer son identité. Mais pour Christina Contis, avocate des familles des victimes de la guerre contre la drogue, cette journée est historique.
C'est le bureau du procureur contre Rodrigo Duterte. C'est surréaliste d'une certaine manière, car ça montre vraiment que maintenant c'est une affaire judiciaire, alors qu'avant on appelait ça la situation philippine.
La prochaine audience de Rodrigo Duterte est fixée au mois de septembre prochain. D'ici là, les victimes espèrent qu'il ne sera pas autorisé à revenir aux Philippines. Nemo Lecoq-James, Manille, RFI.
Dans l'actualité économique, la France, pourtant très endettée, échappe à une dégradation de sa note par Fitch. L'agence de notation américaine a maintenu sa note souveraine à AA-. Fitch observe que malgré le dérapage budgétaire l'an dernier et un déficit public passé à 6% du PIB, eh bien la France conserve, je cite, une économie vaste et diversifiée avec des institutions fortes et efficaces. Le ministère français de l'économie n'a pas tardé à réagir, se disant déterminé à poursuivre le redressement des finances publiques. Direction maintenant le Venezuela, où les autorités annoncent avoir saisi 5,4 tonnes de cocaïne ainsi que des armes et des bateaux. La drogue fabriquée en Colombie était transportée dans des bateaux et des submersibles de fabrication rudimentaire, a précisé le ministre vénézuélien de l'Intérieur. La drogue devait passer par le lac de Maracaibo, plus grand lac d'Amérique du Sud et qui a un débouché sur la mer des Caraïbes. Les précisions à Caracas d'Alice Campagnol.
C'est dans le nord-ouest du pays, à la frontière avec la Colombie, qu'ont été saisies 5,4 tonnes de cocaïne d'une très grande pureté, selon les mots du ministre. Avec ces quantités astronomiques de drogue, des armes ont également été confisquées, ainsi que plusieurs bateaux sur lesquels la cocaïne était transportée jusqu'au lac de Maracaibo, puis jusqu'à la mer des Caraïbes. Diosdado Cabello, homme fort du régime, a également annoncé l'arrestation de 9 personnes, dont 2 maires appartenant au Parti Socialiste Uni du Venezuela, le parti au pouvoir dont Cabello est l'un des dirigeants. L'opération, baptisée Éclair, a donné lieu à des affrontements entre trafiquants et forces de l'ordre. 2 morts sont à déplorer. Avec cette prise, ce sont 8 tonnes de cocaïne qui ont été saisies depuis le début de l'année. Rappelons que Nicolas Maduro et plusieurs de ses proches sont poursuivis aux États-Unis pour narcotrafic. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
En rugby, enfin, suite et fin ce samedi du tournoi des 6 nations avec 3 matchs disputés le même jour. Le programme est dominé par la rencontre France-Écosse ce soir au Stade de France. Un succès donnerait aux Bleus de Fabien Galthié la victoire finale dans ce tournoi. À suivre aussi les matchs Italie-Irlande et Pays de Galles-Angleterre. C'est la fin du journal. L'information reviendra dans une petite heure. Tout de suite, Écho d'ici. Ici Écho d'ailleurs, l'émission de Bruno Faure.